Sur Radio Loifa 106.8 FM, j'ai en tout cas le grand plaisir, chers auditeurs, de vous accueillir ce jeudi 2 février entre 17 et 19 heures, et nous allons parler du scrutin palestinien, des élections palestiniennes qui ont vu non seulement l'émergence mais une victoire quasi écrasante du Hamas, le parti dit islamiste pour certains intégristes, le parti qui prend distance armée contre Israël et le sionisme, allais-je dire. À côté de cela, le Fatah désabusé ne comprend plus ce qu'il lui arrive, et donc actuellement nous sommes en train de vivre dans les territoires occupés, que ce soit à Gaza mais aussi en Cisjordanie, à Jérusalem Est, ce qu'on peut appeler une grande harira, une grande soupe. Et donc pour ce faire, j'ai invité Nadia Farh de l'association belgo-palestinienne qui s'excuse de ne pas être parmi nous. J'ai aussi tenté d'essayer d'avoir quelqu'un du Hamas, alors ça n'a pas été évident, je n'ai encore à ce jour personne, peut-être dans les semaines à venir. Et nous avons, et oui, aujourd'hui Madame Marianne Blum qui est ici avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Marianne Blum, on pense à Blum, le ministre français.
C'est gentil, mais ça n'a pas grand-chose à voir.
Ça commence bien. Et donc, est-ce que vous pouvez éventuellement, pour les auditeurs de la radio, vous présenter en quelques mots?
Oui, en quelques mots, je suis enseignante. J'ai enseigné assez longtemps à l'Athénée de Molenbeek. Et pendant 10 ans, j'étais coopérante APF à Gaza. Donc, j'enseignais le français à l'université Lazare.
Voilà donc Marianne Blum qui a été coopérante pendant de très très nombreuses années dans les territoires occupés, et donc j'ai le plaisir en tout cas pour la première fois, et oui sur peut-être Radio Loifa, sur les informations citoyennes, d'accueillir. Alors première réaction à chaud, que vous a fait la victoire du Hamas?
Eh bien, je dois avouer que personnellement j'étais assez contente de voir la victoire du Hamas, contrairement à ce que la plupart des gens disent. Contente parce qu'en fait, d'une certaine manière, ça va forcer tout le monde politique palestinien, mais peut-être israélien aussi, à se positionner de manière différente. Je suis peut-être optimiste. Il est très clair que le Fatah était en échec total, et cet échec ne date pas d'hier, depuis le lendemain des accords d'Oslo, vu que finalement, les Israéliens n'ont rien proposé, n'ont rien permis comme le processus de paix. Les Palestiniens commençaient déjà dès 96, moi je suis arrivée là-bas en 95, dès 96, à dire bon ben alors ça sert à quoi? Et puis dans la suite on a vu que bon, les accords d'Oslo prévoyaient une série d'accords avec Israël qui demandaient chaque fois des représentants palestiniens bien définis, et ça a amené effectivement à une corruption qui était dénoncée ouvertement à Gaza. C'est parce que beaucoup de gens n'ont pas voulu entendre, mais pourtant les Palestiniens disent qu'il y a corruption dans le Fatah, et on ne le dit pas dans les milieux intellectuels ou politiques, on le dit dans la rue. Donc c'est clair que le Fatah, d'une certaine manière, aux yeux de la population palestinienne, n'est pas représentatif, ou en tout cas plus comme gestionnaire. Alors, la victoire du Hamas, c'est ça aussi. Une partie du vote palestinien n'est pas un vote pour le Hamas, c'est essentiellement un vote contre le Fatah et la gestion du Fatah. Dans la population palestinienne n'est pas non plus folle. Elle sait très bien que si le Fatah n'a pas pu gérer, par exemple, plus loin le processus de paix, c'est dû essentiellement au blocage du côté israélien. Pour le Hamas lui-même, le fait qu'il ait eu cette victoire, ça l'oblige aussi à être beaucoup plus terre à terre, c'est-à-dire à retomber un peu de cette rhétorique qui effraie tant l'Occident, bon, rhétorique sans doute commune là-bas. Là-bas, si on dit je promets un tremblement de terre après un assassinat ciblé, ça ne fait trembler personne. En fait, c'est une expression en arabe. Bon, ben, c'est bon. Les gens disent oui, bon, le Hamas va essayer de se venger. Voilà, c'est tout. Bon, mais évidemment, traduit en français, en anglais, en allemand, ça a un autre poids. Et le Hamas a toujours prouvé, même avant maintenant sa victoire électorale, qu'il arrivait un moment où ils sentaient que leur base n'allait pas les suivre, notamment parce que ça risquait une guerre civile, ils ont toujours réussi à faire des accords avec le Fatah.
Alors, ce qui est pourquoi la Palestine, pourquoi vous investir dans les territoires occupés pendant une si longue période, et comment se fait-il que vous arrivez à avoir ce recul et à ne pas diaboliser comme l'ont fait la majorité des médias occidentaux le Hamas, qui est néanmoins, quoi qu'on en dise, malgré peut-être son pragmatisme, un parti considéré comme terroriste aux États-Unis et en Europe.
Oui, mon engagement pour la Palestine, je veux dire, partir pour moi, bon, ça fait partie d'un engagement plus général pour un monde plus juste, pour effectivement un engagement de gauche, pour effectivement un monde où finalement ils pourraient trouver leur indépendance et disposer d'eux-mêmes. Donc ça c'est très clair, je travaillais déjà avant dans l'association belgo-palestinienne. Quand on m'a dit il y a un projet et la communauté française de Belgique demande des gens, j'ai été partante parce que je voulais faire ça sur place, je voulais voir ce qu'on pouvait y faire. Maintenant, pourquoi ce recul par rapport au Hamas? Mais parce que simplement, ayant vécu 10 ans à Gaza, qui n'est pas l'endroit le plus ouvert dans les territoires palestiniens, jamais rencontré aucun obstacle, je n'ai jamais fait l'objet d'aucune critique de la part de ce qu'on appelle les islamistes. On m'avait dit, oh, tu vas voir, tu devras mettre un foulard sur ta tête, bon, etc., etc., les préjugés. Jamais on ne me l'a demandé, jamais même dans la rue on ne m'a dit, et alors comment tu te promènes toi à l'étrangère? Non, j'ai eu des remarques des gens qui me disaient, bon, tu es quelqu'un de bien, il vaudrait mieux. Mais jamais on ne m'a forcé à rien du tout. Donc, ça c'était en tant qu'étrangère, bon, je suis sans doute privilégiée. Mais par ailleurs, on a toujours vu le Hamas très pragmatique dans les luttes internes aussi. Je veux dire, quand on a vu le bord installé à Gaza, hein, une sorte de ce qu'on appelait le chaos, mais ce n'étaient jamais les gens du Hamas. Les gens du Hamas n'ont kidnappé personne. Les gens du Hamas ne se promenaient pas dans la rue en faisant des factions entre eux. Une fois qu'on a eu effectivement ces luttes armées, bon, qui ont aussi été amplifiées, c'était toujours à l'intérieur du Fatah, c'est-à-dire que c'est effectivement le Fatah qui à un certain moment a comme implosé. Il y avait à l'intérieur du Fatah, or ce qui effectivement disait, bon, ça suffit maintenant, la corruption, ça suffit. Mais ce sont des gens qui tous appartiennent à la grande famille. Je pourrais presque comparer ça à la Belgique. Le système est un peu le même. On est dans une grande famille, on est dedans, et on a du mal à en sortir, même si effectivement cette grande famille, bon ben, elle a des défauts. Je veux dire, un petit peu comme en Belgique dans le Borinage, quand on est socialiste, on peut ne pas être d'accord avec le bourgmestre ou dire, bon, les socialistes ceci et cela, mais on reste socialiste. Et il y a un peu de ça aussi dans les gens du Fatah. Donc le Fatah était une sorte, les Palestiniens le disaient, c'est un supermarché. Il y a de tout. Il y a des gens de gauche, de droite, du centre. Et donc, on voyait très bien que le Hamas, au contraire, est beaucoup plus organisé, malgré qu'il lui aussi ait des gens qui sont de niveau social très différent, mais beaucoup plus organisé parce qu'en fait, il a aussi une idéologie, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, mais beaucoup plus claire. Le Fatah a des... difficile de savoir ce que voulait le Fatah par la libération de la Palestine.
Alors, on le constate, Madame Blum, la victoire du Hamas indispose non seulement le gouvernement américain, c'est un peu normal, mais aussi beaucoup les Occidentaux qui lancent déjà des menaces par rapport aux subventions que l'autorité palestinienne reçoit annuellement pour notamment payer ses fonctionnaires. Est-ce que vous pensez que c'est une attitude européenne du chantage, une attitude intelligente, ou est-ce qu'à un moment donné le Hamas devra s'aligner sur les positions américaines et européennes?
Mais avant de répondre si c'est intelligent ou pas, ou si le Hamas doit ou non s'aligner, moi je dirais que quelque chose de quand même très fou de pénaliser, après avoir chanté les louanges de la démocratie parce qu'on a voté, d'abord on remarquera que l'Occident réduit la démocratie au fait de voter, et les sauvages que sont les Palestiniens, ben, qui pouvaient bien voter, c'est pas la première fois, hein, mais tout d'un coup tout le monde a dit, ah ben ça c'est super. Maintenant le résultat ne plaît pas, donc ça commence à être beaucoup plus embêtant. C'est démocratique, mais ça ne plaît pas. Donc, il va falloir faire quelque chose. Donc, ça, c'est aussi très grave. Et quand on parle des projets belges, quand M. de Decker dit « je vais bloquer des projets », ce qui est vraiment très grave, c'est qu'en fait, ce sont des projets qui sont des projets de construction, qui sont des projets pour la population. Quand il y a un des projets qui va être bloqué, qui est l'électrification d'un petit village dans une colline en Cisjordanie. Je voudrais bien savoir qu'est-ce que arrêter ce type de projet, qui est-ce que ça punit, le Hamas ou bien la population tout simplement. De même, autre projet qui était en marche, qui était de ce qu'ils appellent capacity building, pour que les fonctionnaires des ministères aient la capacité effectivement d'être un vrai ministère avec une gestion organisée, donc ce qui est une aide à la transparence, à la bonne administration, on va arrêter ces projets. Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer la logique? que ce soit des gens du Hamas ou du Fatah, les fonctionnaires, il faudra quand même bien les former. Et mieux on les formera si on a des chances d'avoir une vraie démocratie. Donc que l'Amérique dise on n'est pas avec le Hamas, s'il l'avait déjà mis sur la liste des terroristes, on comprend. Les Européens, poussés par les Américains, avaient fini par le mettre aussi. Mais je pense que c'est une politique qui est complètement folle et qui va se contre d'un mouvement historique. Je veux dire, je suis pas une politologue, mais si on lit ce qu'écrivent les Israéliens même, de gauche évidemment, mais ce qu'écrivent aussi des gens comme Le Grain, qui sont listes du monde musulman, ils disent, mais est-ce que c'est pas une aberration de dire que dans le monde arabe, on peut travailler sans les mouvements islamiques ou musulmans? Est-ce que c'est pas une aberration? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un fantasme européen de se dire qu'effectivement, il nous faut un monde arabe laïque et non musulman, de préférence, ce serait nettement mieux. Donc, il y a là quelque chose qui est complètement tordu et qui va à l'encontre de...
Pourquoi justement est-ce que l'Occident, ce parallélisme entre les mouvements religieux islamiques ou islamistes et par exemple l'extrême droite et les fascistes, souvent vous avez des hommes politiques ou des acteurs philosophiques ou associatifs qui font ces simplimes, ces caricatures et ce parallélisme grossier. Est-ce qu'il faut encore plus diaboliser le Hamas par rapport à ce qu'il est déjà?
Alors moi je pense que de toute façon... Toutes ces comparaisons historiques, si vous regardez le conflit palestinien, on n'arrive pas à sortir de ces insultes, ce sont des nazis, ce sont des fascistes. Les Israéliens, même dans leur parlement, se traitent allègrement de nazis, fascistes, enfin, etc.
À Knesset.
Alors que bon, c'est... Toutes ces comparaisons n'ont qu'une valeur, en fait, si ce n'est que de dire qu'est-ce qu'on a de pire en Europe que de dire à quelqu'un que c'est un nazi, ou que c'est un Hitler. Et Netanyahou et le gouvernement israélien le savent bien. Netanyahou, avec le Hamas, eh bien, c'est comme si Hitler venait au pouvoir. Ça n'a évidemment aucun sens. Et le Hamas n'est pas un parti de gauche. Ça, c'est certainement clair. Mais c'est un parti qui est quand même un parti qui a des assises, au niveau de l'éducation, de la santé, etc. Et c'est ce qui fait que les Palestiniens, même qui ne sont pas religieux au point où le voudrait le Hamas, que des gens qui sont même qui étaient du Fatah, ont voté Hamas. Parce que ce sont des gens qui se meuvent dans la société, qui sont partout dans ces sociétés, et qui, par rapport au Fatah, ont fait leur preuve d'une certaine honnêteté, d'une certaine transparence, et d'un qui n'était pas un discours fluctuant. Maintenant, on aime le discours ou pas, est-ce que c'est à nous de juger? Moi, je veux dire, est-ce que quand Sharon est venu au pouvoir, on a demandé aux Israéliens comment ils pouvaient mettre au pouvoir ce que les Israéliens même ont dit, un assassin? Je veux dire, est-ce qu'on l'a mis aux Israéliens? Eh ben, les gars... Réveillez-vous là, qui est-ce que vous avez élu? Jamais. Maintenant, ce problème se pose, je pense, parce qu'aussi en Europe, l'islam est devenu le nouvel ennemi. Je dirais, quand on a vu les émeutes à Paris, on a vu aussi des délires sur tout ce qui est
sur
société
les,
musulmane.
Notamment les you-you, certains députés sont venus avec les you-you par les femmes lors des cérémonies de mariage.
Et moi, j'étais effrayée. On dit, ah, voilà, c'est l'intifada à Paris. Et aucun de ces jeunes qu'on pouvait entendre n'a même fait référence à la Palestine, pour une fois. Et on s'est aperçu en plus que ces jeunes étaient aussi de la communauté africaine. C'est simplement une manière, effectivement, de défense de l'Occident et une très grande peur, je crois, aussi de la part de la gauche laïque qui voit là-dedans, en fait, tout ce contre lequel elle lutte. Dans la période 19e-20e siècle, il est clair que la lutte de la gauche contre l'Église comme pouvoir établi, comme pouvoir qui restreignait les libertés, comme pouvoir d'argent aussi. En fait, on remet tout ça, mais sans faire la part des choses. Je veux dire, on n'est pas en Europe, on n'est plus à la même époque. Alors, moi, personnellement, je suis laïque, je suis athée, mais... Ça ne m'empêche pas de reconnaître dans le Hamas un mouvement politique qui a des valeurs, qui porte des valeurs et qui en plus est porté par une partie de la population. Alors qu'est-ce que je veux dire de plus?
Alors, est-ce que vous avez toujours actuellement des contacts avec le peuple palestinien?
Avec le peuple palestinien, non, mais avec des Palestiniens, oui, ou avec des étudiants, avec des amis, oui, que j'avais là-bas.
Globalement, quelle est la position des Palestiniens? Est-ce qu'ils ne sont pas créatifs néanmoins, malgré les pressions des Occidentaux, ou est-ce qu'ils voient vraiment en Hamas un parti politique digne et sérieux qui pourra, à un moment donné, défendre les intérêts palestiniens?
Bon, ben d'abord, si on regarde, quand on dit un raz-de-marée Hamas, c'est l'effet aussi, évidemment, de la proportionnelle. En fait, si on regarde le chiffre de votants, il y a 400 000, je ne sais pas combien, qui ont voté pour le Hamas, et il y en a beaucoup plus qui ont voté, en fait, pour d'autres. Simplement, le système de la proportionnelle fait que c'est le Hamas qui est passé. Système que le Fatah avait mis en place pour mettre le Hamas de côté. Bon, ça s'est retourné contre eux, c'est assez embêtant. Donc ça, c'est une première chose. Donc les gens que moi je connais la plupart du temps étaient du Fatah ou des FPLP ou du mouvement de la Moubadara de Mustafa al-Barghouti. Eh bien, ces gens-là ne sont pas spécialement heureux de voir le Hamas au pouvoir, mais tous disent, ben, parce que de toute façon, quand on avait le Fatah et qu'on nous disait, oui, le processus de paix, ce processus de paix n'a jamais avancé. Arafat a été disqualifié comme partenaire. Mahmoud Abbas est venu. Les gens ont voté pour lui en disant, bon, allez, ils veulent Mahmoud Abbas, ils auront Abbas et on va voir ce que ça donne pour la paix. Qu'est-ce que ça a donné? Les Israéliens n'ont rien donné. Donc même des gens qui étaient au Fatah ont dit, ben alors, tant qu'à faire, mais alors votons Hamas, en dehors évidemment des problèmes internes, qu'au niveau du processus de paix, qu'est-ce que ça a donné? Tout ce qu'on a donné, les concessions qu'on a faites, qu'est-ce que ça a donné? Donc ça c'est une chose. Maintenant, si je parle à des gens qui sont laïcs, ou en tout cas qui ne veulent, sont pas pratiquants musulmans, ils me disent, écoute Marianne, c'est vrai que si l'Occident s'entête à nous enfermer, c'est-à-dire à ne pas parler avec le Hamas, à ne pas nous permettre un développement local, alors ça va être très dur. Mais si permet au Hamas, dans un gouvernement d'unité nationale ou d'une autre manière, de pouvoir effectivement prendre sa place dans la société palestinienne est assez critique et assez forte pour ne pas se laisser à ce qu'elle ne veut pas. Alors, c'est la réflexion aussi d'un autre ami qui me disait, les partis chez nous, c'est des partis, mais le système clanique joue toujours. Dans une grande famille, on a aussi bien des gens du Hamas que des gens du Fatah, que des gens de l'extrême gauche. S'il arrive un problème dans la rue, si on dit à une fille, toi t'es mal habillée, et on lui flanque une claque parce qu'elle est mal habillée, il me dit, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Mais si dans la famille des gens du Hamas, les gens du Hamas de la famille de la fille vont aller se battre contre ceux qui se sont permis d'insulter la fille, on ne va pas trouver un clivage, tous les gens du Hamas d'un côté et tous les gens du Fatah de l'autre côté. Encore dans un système, qu'on le veuille ou non, qui est un système clanique.
Vous écartez une implosion, peut-être très rapidement, voilà.
Comment?
Vous écartez une implosion palestinienne?
Une implosion palestinienne, oui. Bon, je ne pense pas.
Vous ne pensez pas que c'est éventuellement possible après les propos de certains chez la brigade des martyrs d'Al-Aqsa?
Mais quand on dit les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, bon, nous qui avons vécu sur place, nous savons que pas. Il y a des brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Alors, il y a trois imbéciles d'un côté qui montent sur le Parlement. Et il y a cinq autres mouvements des mêmes brigades qui disent, mais enfin, c'est quoi cette histoire?
C'est beaucoup de chaud.
Il y a beaucoup de chaud. Crainte maintenant, il faut dire que les gens du Fatah, qui sont dans l'administration et dans la police, etc., ils ont peur, évidemment. Si le Hamas est là, il représente l'autorité, il représente le Fatah, auront-ils encore un boulot, auront-ils encore un...
Alors, le ministre des Affaires étrangères, l'ex-ministre belge des Affaires étrangères, M. Louis Michel, parlait d'équidistance, c'est-à-dire d'avoir un rapport égalitaire entre Israël et la Palestine, neutre de préférence. Dans l'histoire européenne, il y a toujours eu un parti pris pro-israélien, l'histoire le démontre, et qu'actuellement, on est en train de presque nobiliser Ariel Sharon et son nouveau parti, le Kadima. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette équidistance en...
Eh bien, je vais vous dire, moi, je suis à fond pour l'équidistance. On demande au Hamas d'arrêter la violence et on demande à Israël d'arrêter la violence. Alors là, moi, j'appelle ça de l'équidistance. Parce que si vous dites au Hamas ou à n'importe quel résistant, il faut arrêter la violence. Et en face, c'est ce qu'on leur demande, d'arrêter les tanks, les avions, les incursions, les assassinats ciblés, les arrestations. Je veux dire, si nous parlons d'équidistance, alors soyons équidistants jusqu'au bout. Ce que je demande à l'un, je le demande à l'autre.
Alors pour être déranger peut-être un tant soit peu, est-ce que vous pensez que l'histoire de la Shoah, que nous avons connue entre 1939-1945, qui a vu des millions de juifs gazés, que ce soit à Dalinka ou Auschwitz, joue toujours dans la conscience européenne et fait en sorte aussi que les Européens ont légèrement un parti pris ou pas?
Moi, je pense que ça joue. Il reste toujours dans n'importe quel, dans les mentalités ou dans l'arrière-fond de la conscience, personne n'a envie de se faire traiter d'antisémite. Maintenant, je dirais d'un autre côté que les Israéliens en jouent. Et quand je le dis, je ne dis pas ça en tant que belge historien, etc. C'est simplement, vous lisez les journaux israéliens en anglais, et vous lisez Finkelstein qui parle du business de l'Holocauste, c'est clair que c'est devenu un manteau, c'est devenu quelque chose qu'on utilise et qui sait.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Loi Face en 6. Je rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous envoyer vos textos 0473 595 407. Et puis, grande nouvelle, puisque notre chroniqueur, notre grand chroniqueur, monsieur Ahmed Mohsin, est là. Ça va?
Mais très bien. Et puis, j'abonde tout à fait dans le sens de ce que dit madame Blum. J'ai ici un petit texte qui avait été écrit par monsieur Mustapha, qui est secrétaire général du PNI. Et il a repris quelques éléments pour montrer à quel point cette impression d'amélioration de la situation en Palestine est faussée. C'est qu'une impression. Je crois que le mieux, c'est de prendre des chiffres. Et donc, il explique qu'aujourd'hui, il y a encore 127 colonies en Cisjordanie. Que si 8475 colons étaient déplacés de la bande de Gaza, il y en a 15800 qui se sont installés au même moment en Cisjordanie. Il explique également que le mur illégal continue d'être construit et qu'à terme, c'est plus de 30% de la Cisjordanie qui va être annexée. Et alors, il prend un point sur lequel on n'insiste pas assez, mais là, il est révélateur. Il parle de l'eau. Cisjordanie, il y a en fait à peu près 960 millions de mètres cubes d'eau qui sont produits en Cisjordanie. Et bien sur ces 960 millions, il y en a 109 qui vont pour les Palestiniens, tout le reste va pour les Israéliens. Et alors, il est très intéressant de voir la consommation aussi moyenne d'un Palestinien en Cisjordanie, c'est 36 mètres cubes, celle d'un colon, 2400 mètres cubes. Et donc ces chiffres nous indiquent qu'aujourd'hui, en Cisjordanie, la situation ne fait que se dégrader, contrairement à ce qu'on dit. Et je voulais revenir justement sur ces chiffres pour faire un appel aux citoyens. Pour faire un appel aux citoyens, parce qu'aujourd'hui, en communauté française, il y a quelque chose de scandaleux qui va être voté. Il y a un accord de coopération avec Israël qui va être voté. Cet accord de coopération avait été bloqué en 2001 parce qu'on estimait que Israël ne respectait pas les droits de l'homme. Aujourd'hui, il ne les respecte pas plus, et pourtant, ceci voté. Alors je fais un appel et je relance un appel à tous les citoyens sensibles à la question palestinienne. Il y a des députés ici à Bruxelles qui siègent en communauté française. Daif à Molenbeek, madame Sfia Bouarfa.
Alors vous voulez dire que le Parti Socialiste...
Non, je ne dis pas que le Parti Socialiste, je dis qu'il y a aujourd'hui des députés... Madame Sfia Bouarfa à Skarbek, madame Fadila Lanan à Anderlecht, monsieur Molenbeek, qui ont mené une campagne ici et qui n'ont jamais dit aux citoyens pendant la campagne, dès que nous serons élus, nous voterons un accord de coopération avec Israël. S'il l'avait été honnête, eh bien, il n'aurait jamais été élu. Et donc, moi, je dis aux citoyens qui ont voté pour ces gens, aujourd'hui, vous avez le droit d'aller voir ces gens et de leur dire, Sfia, tu ne me l'avais pas dit. Si tu me l'avais dit, je n'aurais pas voté pour toi. Prochaine fois que tu te présentes, je ne voterai pas pour
Alors,
toi.
Monsieur,
vous pouvez le dire à Daif et vous pouvez le dire à Fadil Alanan.
Monsieur
et vous
Ahmed...
pouvez dire que c'est monsieur Moussine Ahmed qui vous a invité à le faire. Parce que c'est inacceptable. C'est un double langage plus en plus inacceptable. Et moi, chaque fois que je vois ces gens qui se pavanent, qui ont des salaires de députés et qui se comportent, et je le dis haut et fort comme des traîtres, eh bien je dis c'est inacceptable. Ce qu'il y a d'encore plus inacceptable, c'est que ces personnes ont été placées par des gens qui ont voté pour eux, eh bien ces gens qui ont voté pour eux ont aujourd'hui une responsabilité. Et leur responsabilité, c'est d'aller dire à ces gens pourquoi vous allez voter cet accord de coopération. C'est de rappeler à tous les citoyens. Et donc, madame Sfia Bouarfa peut venir la semaine prochaine s'expliquer et nous expliquer pourquoi le Parti Socialiste aujourd'hui soutient cet accord de coopération. Excusez-moi, je suis scandalisé et dégoûté. C'est pour ça que je parle comme ça. C'est pas mon habitude, mais aujourd'hui, je n'en peux plus.
Alors, je suis vraiment étonné parce que ça fait maintenant un an que vous êtes chroniqueur. On vous a pas vu depuis un mois, mais là, vous êtes très, très indigné et très remonté.
Scandaleux. Ce qui se passe est scandaleux. L'association belgienne milite depuis des années. Et aujourd'hui...
15 secondes.
Aujourd'hui, les personnes de l'association belgo-palestinienne me disent « J'ai l'impression qu'on est retourné il y a 15 ans ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec tous les députés que nous et qui normalement doivent soutenir cette cause, eh bien, nous reculons de 15 ans. C'est ça la réalité. Eh bien, ça me scandalise.
Donc, suite après l'indignation de notre chroniqueur Ahmed Mohsin que nous avons retrouvé un mois plus tard, je vais céder, bien évidemment, notre antenne est ouverte au Parti Socialiste. Nous allons terminer en conclusion avec Marianne Bleu. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la communauté belge, arabe, musulmane, qui nous écoute ce soir, qui est parfois peut-être désespérée lorsqu'elle lit les journaux, la presse, les médias, et lorsqu'elle voit que le destin des pères ne s'annonce pas des plus fructueux?
Je ne sais pas si je veux m'adresser spécialement à la communauté arabe de Belgique, je veux dire, parce que bon, tous ceux que je connais sont des Belges comme moi. C'est plutôt à la population en général, c'est d'aller un peu dans le sens de ce que disait votre chroniqueur, c'est-à-dire que si vous êtes citoyen, si vous pensez qu'une action politique est contraire à ce que vous voulez, eh bien interpellez tous vos parlementaires, vos bourgmestres, vos échevins, etc., et emmerdez-les. Moi, je crois que les citoyens sont paresseux. Moi, quand j'écoute une émission radio ou la télévision, eh bien, j'écris. Si je vois quelqu'un qui écrit un article qui ne me plaît pas, je les interpelle. Je pense que le citoyen doit être un citoyen actif.
Là, par exemple, ce que vient de dénoncer le chroniqueur Ahmed Mohsin, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que, par exemple, s'il y a un vote qui se déroule, vous pouvez me rappeler alors que je parle, en tout cas sous votre couvert?
Il y aura normalement un vote en communauté française. Aujourd'hui, Madame Marie...
Qui se déroulera quand, plus ou moins?
On n'a pas la date exacte, mais fort probablement fin février. Les éléments que j'ai, Madame Marie-Dominique Simonnet, qui est ministre CDH en communauté française, et Monsieur Di Rupo, qui est président du Parti Socialiste, ont donné des directives très claires. Ils sont pour cet accord parce qu'ils disent « la situation est en Israël s'est améliorée et donc il faut voter ça ». Et donc moi je dis, si des députés CDH et des députés PS sont en désaccord, des députés communautés françaises, qu'ils viennent aujourd'hui à la radio. C'est important que les citoyens soient informés. C'est tout ce que je demande, qu'ils viennent s'expliquer.
Alors, il y a encore récemment quelques semaines, le Parti Socialiste de François Hollande, lors du dîner du CRIF, à Paris, a eu des propos tout à fait blessants et scandaleux en disant qu'il fallait expurger les éléments pro-arabes du ministère des Affaires étrangères de notre pays. Voilà en tout cas des propos malheureusement qui n'engagent monsieur et la présidence du parti.
Peut-être
pour conclure, 30 secondes.
Oui, je pense qu'au niveau de ces accords, effectivement, le citoyen doit être actif. Et il doit être actif aussi pour pousser notre ministre de la COP de continuer la coopération avec la Palestine. On ne voit pas pourquoi un peuple devrait payer parce que des Occidentaux décident que son choix est un mauvais choix.
Voilà, Madame Marianne Blum, je tenais vraiment à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Et bien évidemment, vous êtes bienvenue. Merci, Monsieur Ahmed Mohsin. Nous allons directement, en tout cas, d'ici 1 minute 30, débuter un autre débat avec Madame Najat Saadoun, présidente de l'association Dar El Ward. Et nous allons rendre grande soirée de solidarité qui aura lieu d'ici 10 jours à Bruxelles pour venir en aide aux enfants leucémiques.